Radio Kapi.
Le journal, c'est avec Gisèle Cage.
Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être à l'écoute de Radio Kapi. À la une de l'actualité de ce dimanche, de faits marquants, des enjeux majeurs et les dernières informations pour mieux comprendre le monde qui vous entoure. Tout de suite, le principal titre de ce journal. Examen d'état, résultats et célébrations au Katanga. Les lauréats envahissent les rues de Lubumbashi pour célébrer leur réussite dans une ambiance mêlant émotion, fierté et communion nationale. Victoire des Léopards, nuit de fierté et de résilience à Goma. Malgré les épreuves, la fatigue et l'isolement liés à la guerre, les habitants de Goma ont laissé éclater leur joie après la qualification de la RDC, transformant la nuit en un rare moment de célébration entre espoir et fierté collective. Grand entretien, le colonel Jean-Baptiste Mwampanzi, administrateur du territoire de Mombasa, a fait le point sur la montée des attaques des ADF, leurs conséquences sur la vie des populations et les réponses sécuritaires mises en place par les autorités. Restez avec nous pour tout comprendre de l'actualité. Résultats, émotions et célébrations à ciel ouvert. Ce dimanche, les finalistes du Haut Katanga 1 découvrent enfin les résultats très attendus de l'examen d'État édition 2025-2026 à Lubumbashi. La tension des dernières heures cède rapidement la place à une explosion de joie, cris, chants, klaxons. Les lauréats envahissent les principales artères de la ville pour célébrer leur réussite. Des scènes d'euphorie collective avec des élèves portés en triomphe, des familles en liesse et une jeunesse qui savoure l'aboutissement de plusieurs années d'efforts. Comme chaque année, l'ambiance est au rendez-vous, mais cette fois, elle prend une dimension encore plus particulière. Cette ferveur se mêle en effet à celle suscitée par la victoire historique des Léopards à la Coupe du Monde des footballs, donnant à la ville une atmosphère de fête généralisée entre succès scolaire et fierté nationale. Tous les détails dans ce reportage de Paulin Munanga.
C'est vers 2h du matin que des sifflets et vuvuzela ainsi que des cris de joie ont commencé à se faire entendre dans la ville de Lubumbashi. À 7h, il y a les matchs de football qui opposent la RDC à l'Ouzbékistan pour le compte de la Coupe du Monde de football. Avec la victoire de la RDC, les Congolais sont descendus dans la rue pour exprimer leur joie et se sont retrouvés avec les élèves qui étaient en exaltation après avoir reçu les messages de leur réussite sur les réseaux de communication. Quelques élèves expriment leur joie.
De réussir, j'ai obtenu mon diplôme avec 64%, je suis très contente. Je tiens à remercier d'abord Dieu, remercier mes parents et aussi les profs pour leur effort. Et je suis aussi contente parce que ça n'a pas traîné. Déjà, on a fini les examens le jeudi et puis après 48 heures, on a publié, donc je suis très contente.
Je viens d'obtenir mon diplôme avec 52%, je suis très heureuse. C'est un jour festif, nous avons fêté avec mes amis et c'est vraiment une grâce pour nous.
Ça a été pour moi, je me suis en sorte.
Signalons que le Centre national de correction de l'examen d'État en tête du Haut Katanga a été inauguré lundi dernier à Lubumbashi, jour du lancement de la session ordinaire de l'examen d'État par la ministre de l'Éducation nationale. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Dans la province du Lualaba, une ONG appelle à plus de rigueur dans la correction de l'examen d'État. L'ONG Erapine ASBL met en garde contre le risque lié à une organisation insuffisamment encadrée de ce processus à travers le pays. Dans une déclaration à Radio Kapi ce dimanche, son coordonnateur national s'inquiète de la multiplication des centres de correction à travers le pays. Si cette stratégie permet d'accélérer le traitement des copies, elle doit, selon lui, s'accompagner d'un encadrement rigoureux pour éviter toute dérive, fraude, favoritisme, autant de risques qui pourraient fragiliser davantage le système éducatif congolais. Albert Ibonga est au micro de Paulin Munanga.
L'ONG est rapide. Salue les réformes et innovations que le gouvernement congolais est en train de mettre en place dans ce secteur par le truchement du ministère de l'Éducation nationale, notamment la décentralisation de la correction de ces épreuves par la régionalisation des centres de scannage afin de favoriser l'accélération de la correction et la réduction du délai de publication de résultats. Cependant, Erapinas Bell fait observer au ministère de l'Éducation que cette approche de régionalisation de la correction doit être suivie par des mesures d'encadrement afin de ne pas consacrer des pratiques de correction à l'outrance de ces épreuves. Le favoritisme Erapinas Bell suggère pour rendre ces réformes et innovations sérieuses, efficaces et rationnelles que le ministre de l'Éducation nationale devait prendre un acte décisoire à transférer les copies, par exemple, de l'espace Grand Katanga pour être corrigées dans l'espace Grand Équateur et celle de la ville province de Kinshasa pour, par exemple, être corrigées à Kisangani. Cela pour favoriser et promouvoir le critère de méritocratie et cimenter son caractère national.
À Goma, la joie a pris le dessus sur l'épreuve. Malgré les difficultés, la fatigue, le contexte d'occupation que traversent les habitants, la ville s'est enflammée au rythme de la victoire des Léopards. Ce dimanche, la RDC valide sa qualification pour la suite de la Coupe du Monde après une victoire convaincante, 3-1 face à l'Ouzbékistan aux États-Unis lors du dernier match de phase des groupes. Au coup du sifflet final, malgré l'heure tardive, les Gomatraciens envahissent les rues. Klaxons, chants, danses et cris de joie traduisent un besoin profond de célébrer ne serait-ce qu'un instant. Dans une ville éprouvée, cette victoire offre un souffle, un moment rare de communion et de fierté collective autour des Léopards. Ambiance sur place avec Bernardine Diambo.
Depuis 4h jusqu'à 6h du matin, des scènes ont été observées sur les différentes artères de la ville. Les jeunes de tous les quartiers poussaient des cris de joie en scandant des chants et exhibant les pas de danse pour célébrer la qualification des Léopards. Parmi les manifestants, on pouvait aussi voir des femmes. Des jeunes se sont déchaînés pour saluer cette prouesse historique des Léopards dans une phase finale de la Coupe du Monde. Viva, viva, je suis fier de mon pays. Personne ne peut nous diviser ainsi, a martelé ces jeunes rencontrés sur la route déjà fatigués après avoir parcouru un long trajet à pied. Mais c'est le cas jusqu'à la grande barrière au centre-ville en courant.
Je suis fier du résultat. Je vous remercie au bon Dieu, au staff et aux joueurs qu'il continue. On est content que le football nous unit parce que c'est ça qu'on voulait.
Le football envoie un message fort. Les populations du Nord Kivu aspirent à l'unité, à la cohésion nationale et à la paix. Il faut dire qu'au-delà du contexte actuel de la guerre qui traverse la province du Nord Kivu, la population de Goma a partagé les mêmes émotions, la même joie et la même passion du sport avec le reste du pays. Goma, Bernardine Diambo, Radio Kapi.
Comme à Goma, la célébration s'est aussi invitée à Bunia, en Ituri. La qualification des Léopards pour le 8e de finale de la Coupe du Monde a déclenché de scènes de liesse jusque tard dans la nuit en Ituri. Dans plusieurs quartiers de Bunia, chants, danses et klaxons ont rythmé la fête comme un écho à l'enthousiasme observé ailleurs dans le pays. Un moment rare de joie pour les habitants dans une province pourtant marquée par l'insécurité persistante et l'épidémie d'Ebola. Reportage signé Isaac Remoyope.
Dans plusieurs quartiers de Bunia, des centaines de supporters ont suivi la rencontre entre la RDC et l'Ouzbékistan. Certains ont regardé les matchs à domicile, tandis que d'autres, faute d'électricité, d'écran ou d'abonnement, se sont rendus dans des salles de projection ou des bars, parcourant plusieurs quartiers pour vivre ces rendez-vous sportifs. Tout au long de la rencontre, les supporters ont laissé éclater leur joie à chaque but de Léopard. Au coup des sifflets finaux, des groupes de jeunes sont descendus dans les rues, à chantant et à célébrant la qualification historique de la RDC. Pour beaucoup d'habitants, cette qualification est un moment historique que leur génération n'avait jamais connu. Déplacés de guerre, commerçants, conducteurs de taxis, fonctionnaires et autres habitants ont célébré ensemble cette victoire qui leur a permis, le temps d'une soirée, d'oublier les souffrances liées à l'insécurité et au stress provoqués par l'épidémie d'Ebola. Témoignage de plaisir Nzigi.
Ça a été émotionnel, ces moments de joie. C'est jamais vécu au fait. Si on est parvenu à gagner quand même une équipe européenne, vraiment. C'est un honneur, au fait. Quand on a des occasions pareilles, on ne veut pas gâcher. Au fait, pour essayer un peu d'oublier ce qui se passe, là où il y a la guerre.
Selon la police nationale congolaise, aucun incident majeur n'a été enregistré durant les célébrations. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Satisfaction côté Léopard après une qualification bien méritée. Le sélectionneur national Sébastien Desabre salue la prestation de ses joueurs, auteurs d'une victoire convaincante face à l'Ouzbékistan. Un succès qui redonne de la joie au peuple congolais et permet à la RDC de se qualifier pour la suite de la Coupe du Monde 2026. Le technicien s'est exprimé en conférence de presse à l'issue de la rencontre. On l'écoute dans cet extrait sélectionné par Jean Gandou.
On a pris un but un peu tôt dans la partie, mais comme dernièrement contre le Portugal ou même contre le Nigeria en phase de qualification, on a su rebondir et on a mis beaucoup d'abnégation, beaucoup de motivation. Et je pense que au niveau de la physionomie du match, la victoire est logique. Je pense que c'est un exploit qu'on a fait et pour nous, le plus important, c'est qu'on a montré encore une belle image du Congo. Je voudrais rendre hommage à mes joueurs, à l'ensemble de mon staff qui travaille quotidiennement à mes côtés. Ce qui est sûr, c'est que on a fait une erreur à l'intérieur. On a ouvert l'intérieur un peu trop tôt sur le but, tactiquement. Et puis il y a une belle finition de leur attaquant. Faut reconnaître que c'est un très bon joueur. Mais après, on avait décidé depuis maintenant le début de la compétition de laisser quelques joueurs pour avoir de la fraîcheur sur le troisième match qui nous semblait accessible. C'est ce qui s'est passé. Les joueurs qui n'avaient pas participé aux deux premiers matchs ont amené beaucoup de fraîcheur à mon équipe. Je pense que c'est assez logique qu'on s'impose au vu de la possession et de la prestation proposée.
Autre chapitre de l'actualité, mouvement de panique cette nuit à Oicha, près de Beni. Dans cette agglomération située à une trentaine de kilomètres, des habitants de la partie ouest ont fui leur domicile après de coups de feu entendus pendant plus de 30 minutes. Craignant une incursion des rebelles des ADF, plusieurs familles se sont dirigées vers le centre-ville à la recherche de sécurité. Une situation qui a provoqué une vive inquiétude au sein de la population. Face à cette psychose, les autorités locales tente de rassurer. Le maire d'Oicha appelle au calme tout en demandant à la population de rester vigilante. Faustin Silouere est au téléphone de Marc Marofimbo.
Certes, il y a un crépitement de balles en ville d'Oicha dans le quartier Bakaïko vers 2h du matin. Selon les informations en notre possession, il y aurait confusion entre le service de sécurité, faute pour eux de ne pas avoir un mot de passe commun. Voilà ce qui remet à cause, bien sûr, d'une éventuelle incursion des ADF. Il faut noter également que cette confusion a entraîné les déplacements massifs de la population, avec bien sûr toutes les conséquences relatives. Les services de sécurité au pied d'œuvre pour prévenir toute éventuelle attaque de l'ennemi, tout en demandant également à la population de rester calme, de rester trop vigilante et de ne pas céder aux rumeurs susceptibles d'alimenter des psychos.
Ces dimanches matin, les habitants qui avaient fui ont commencé à rentrer progressivement chez eux, mais malgré ce retour au calme apparent, la psychose reste vive au sein de la population, en dépit donc des assurances des autorités. Toujours au Nord Kivu, une nouvelle attaque signalée sur l'axe Goma-Butembo. Des hommes armés non identifiés ont tendu une embuscade samedi soir vers Mabenga, en plein parc national des Virunga. Deux véhicules de transport en commun appelés Léo Léo ont été pris pour cible sur cette route stratégique. Face à la recrudescence de l'insécurité, les usagers appellent les forces de sécurité à redoubler d'efforts pour sécuriser cet axe vital. Seule liaison actuelle entre le grand et le petit Nord Kivu. Les détails avec Bernardine Diambo.
D'après des sources concordantes dans la zone, ces deux véhicules en provenance de Butembo vers Goma sont tombés dans une embuscade de bandits armés non autrement identifiés autour des 13h locales de ce samedi vers Mabenga dans le parc national de Virunga. Les passagers de ces deux véhicules ont été dépouillés de tous leurs biens. Nos sources ajoutent que ces hors-la-loi ont tiré plusieurs coups de feu en l'air afin de dissuader les deux conducteurs de voiture. Juste après avoir commis leur forfait, ces hors-la-loi se sont retranchés dans la nature, ont indiqué nos sources. Deux autres véhicules qui suivaient après ont échappé de justesse. Rappelons que cette attaque est comptée parmi de nombreuses autres déjà enregistrées sur cet axe routier stratégique, pourtant censé être sécurisé. Depuis plusieurs mois, les cas de braquage, enlèvement, tuerie et attaques armées se multiplient dans cette zone. zone du parc national de Virunga, précisément dans la zone de Busendo, créa ainsi une forte psychose parmi les usagers. Une situation qui inquiète particulièrement les opérateurs économiques et les transporteurs qui utilisent l'unique voie actuellement pour relier les petits et les grands nord Kivu pour des échanges commerciaux. Goma, Bernardine Diambou, Radio Kapi.
À Mambasa, le manque de réseau devient un enjeu sécuritaire majeur dans ce territoire situé à 174 km à l'ouest de Bounia, en Ituri. La faible couverture des téléphones mobiles complique la riposte face aux attaques des ADF. Faute des communications fiables, les alertes tardent à remonter, ralentissant ainsi l'intervention de forces de sécurité pour protéger les civils. Réunis jeudi, le chef coutumier de cette chefferie ont plaidé pour l'installation des nouvelles antennes afin de renforcer la sécurité dans leur localité. Le point avec Isaac Remoyope.
Dans plusieurs villages de cette chefferie du territoire de Mombasa, les plus vastes de la province de l'Ituri, la couverture des réseaux de télécommunications est très faible, voire inexistante. C'est notamment le cas de la chefferie de Walesebc. Les 21 villages de cette chefferie ne disposent d'aucun réseau de téléphonie mobile. Cette situation facilite les incursions des ADF qui peuvent mener leurs attaques sans être rapidement signalées. Le chef de la chefferie de Walesebc, Faustin Soukari, témoigne.
Dans toute la chefferie, il n'y a pas de réseau. J'avais installé le wifi, mais les ADF sont venus voler. Pourtant, c'était notre seul moyen de communication.
Dans d'autres chefferies, seules quelques grandes agglomérations bénéficient d'une couverture réseau, mais celle-ci reste très faible. Lors de la dernière attaque contre les villages de Bahaha, des rescapés ont dû parcourir près de 10 km à pied pour capter un signal téléphonique et alerter les FARDC.
L'incursion qui est entrée à Bahaha, il n'y a pas réseau. Faire 10 km, 15 km, aller chercher les réseaux pour communiquer. Et l'alerte était arrivée en retard. Heureusement qu'il y a eu l'intervention des militaires qui étaient là, qui ont essayé quand même de délimiter les dégâts.
Les sociétés de téléphonie mobile avancent des raisons sécuritaires qui les empêchent de déployer leurs équipes techniques à l'intérieur de la province. De retour de Mombasa, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
À la périphérie des Kananga, se soigner reste un parcours du combattant dans le groupement des Ngala Kaji, situé à une quinzaine de kilomètres de la ville. L'absence des structures sanitaires complique gravement l'accès aux soins. Les femmes enceintes notamment sont contraintes de parcourir de longues distances pour accoucher au risque de leur vie et celle de leur nouveau-né. Une situation qui contribue à la hausse des décès infantiles dans la zone. Face à cette urgence, un bienfaiteur a lancé la construction d'un centre de santé moderne pour soulager la population. Reportage signé André Katende Ngala Moulumé.
En Ngala Kaji, l'offre de soins est quasiment inexistante. Ni centre de santé, ni maternité pour des milliers d'habitants. L'établissement le plus proche se trouve à Mwambambui, à plus de 5 km. Pour se faire soigner, les habitants doivent marcher pendant de longues heures. Faute d'alternatives, certains recourent aux plantes médicinales, d'autres à l'automédication. Marcel Kadima, représentant du chef du groupement, décrit une situation préoccupante. Les femmes enceintes sont le plus exposées. Accoucher exige souvent des longues heures de marche, ce qui pousse certaines à donner naissance à domicile. D'autres n'atteignent même pas le centre de santé. Il arrive qu'elles accouchent en chemin, au risque de perdre leur bébé, à l'instar d'Elise Mouchia, qui en garde un souvenir douloureux.
Je me rendais à Mwambambui pour accoucher, arrivé en Panga, en pleine brousse, j'ai mis au monde. Faute de sage-femme, mon bébé est mort.
Face à cette réalité, une fondation caritative a lancé les travaux de construction d'un centre de santé moderne dans la localité. Les travaux sont prévus pour durer 4 mois. Cette infrastructure permettra notamment aux habitants de se rapprocher des services de santé et de bénéficier des soins de qualité, a indiqué les représentants de la fondation. Kananga, André Katendengala Moulumé, Radio Okapi.
Actualité internationale. Au Pakistan, 3 membres de Rangers pakistanais ont été tués samedi soir dans une attaque survenue à Karachi, la grande métropole du sud du pays. Selon l'armée pakistanaise, l'assaut a été marqué à la fois par une explosion et des tirs nourris. Dans un communiqué publié ce dimanche, les forces armées ont attribué cette attaque au groupe Jamaat ul Ahrar, la qualifiant d'acte lâche visant un camp de Rangers. D'après la même source, les assaillants ont déclenché une explosion à l'entrée principale du camp avant de tenter d'en franchir le périmètre de sécurité. Leur progression a toutefois été stoppée par la riposte rapide et déterminée des forces sur place. Le bilan fait état de 3 morts parmi le paramilitaire et de 4 blessés. Jamaat Ul Ahrar est une faction radicale parfois liée au Tarek El Taliban Pakistan, un mouvement dont les actions violentes se sont intensifiées ces dernières années dans le pays. Les autorités pakistanaises accusent régulièrement l'Afghanistan d'abriter des combattants responsables de plusieurs attaques meurtrières. Des accusations rejetées par Kaboul.
L'invité.
Cap sur l'Ituri, où l'insécurité reste une vive préoccupation à Mambasa. Depuis janvier 2026, ce territoire fait face à une recrudescence des attaques attribuées aux ADF touchant l'ensemble des chefferies de cette vaste entité qui couvre près de la moitié de la province. Une situation qui perturbe profondément la vie économique, sociale, sanitaire et éducative des populations. Malgré les opérations menées dans le cadre de l'état de siège, l'insécurité demeure persistante. L'administrateur du territoire de Mombasa, le colonel Jean-Baptiste Mwapanzi, fait le point dans cet entretien accordé à Isaac Remoyope.
Monsieur l'administrateur du territoire, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
Quelle est la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans votre entité, fortement affectée par l'activisme des rebelles ADF?
Nous sommes en train de passer des moments un peu d'accalmie, précaire. Mambasa a été bousculé, c'est depuis le mois de janvier passé. Tout au début de l'année, nous avons connu des attaques difficiles à gérer. On a perdu des militaires dans le triangle de la mort communément appelé Banzu Banzu. Quand vous allez vers la RN4, tout ça, il y a des militaires qui sont tombés, 13 militaires. Nous sommes allés vers le mois de février-mars. On a encore connu des cas vers Mouchacha, vers Babessoua, vers Bafouakoa. C'est parti jusque vers fin mai à peu près. Mais c'est à peu près entre mai et juin ici qu'il y a une petite accalmie précaire. Mais nous avons notre armée qui est derrière et qui est en train de préparer des opérations de grande envergure pour traquer cet ennemi jusqu'à le neutraliser.
Les ADF sont actifs sur plusieurs axes routiers du territoire. Quelles sont les conséquences de leur présence sur les vécus quotidiens de la population? Parce qu'actuellement, on signale leur présence pour que c'est tous les axes.
Évidemment, en territoire de Mambasa, nous trouvons présence des ADF dans toutes les chefferies. Quand l'ennemi, l'ADF, quitte les Roumous, ils traversent la RN4 pour aller par la rivière Ituri et se retrouver de l'autre côté dans Wale-Sekar au nord et Wale-Sedec. Donc toutes les chefferies ont été touchées dans cette période ici de 6 mois. Alors dans la vie de la population, c'est-à-dire la population ne sait plus aller dans les champs. Donc la vie devient difficile dans la cité. Et avec ça, même le véhicule qui vient du nord, d'ailleurs avec le pont qui s'est effondré, donc la vie devient encore très compliquée.
Quelles sont les dispositions qui ont été prises pour renforcer la sécurité de la population et lui permettre de reprendre ses activités normales?
Nous avons notre armée, les forces armées de la République démocratique du Congo, qui travaillent conjointement avec le PDF. Ils ont déjà planifié des opérations de grande envergure. Et on a aussi la MONUSCO qui vient s'ajouter, qui est partenaire privilégié du gouvernement, qui vient aussi s'ajouter. C'est toujours dans le même ordre d'idées pour rendre la vie de la population aisée, sécuriser cette population qui a tant souffert et qui ne jure que par la paix.
Quel est l'apport de la MONUSCO qui a établi une base opérationnelle mobile dans la zone depuis presque une semaine?
Et la MONUSCO qui vient d'établir une base opérationnelle mobile en territoire de Mambasa il y a une semaine, c'est depuis le samedi passé qu'ils sont arrivés ici. Un apport important, nous le voyons ailleurs, à Irumu par exemple, à Djougou, où la MONUSCO intervient, même par rapport à l'évacuation des blessés par balles. L'apport est important. L'apport est important. Avec son matériel, on a espoir que ça va nous aider.
Quels sont les principaux défis qui restent à relever pour neutraliser les ADF dans cette entité? Parce qu'on nous parle, maintenant on nous dit que les ADF ont installé leur bastion dans plusieurs entités chefferies, comme vous l'avez évoqué.
Le principal défi, c'est d'arriver d'abord à conscientiser notre population, que notre population ait confiance dans son armée et dans le partenaire de l'armée, qui sont l'UPDF et la MONUSCO, qu'on ait confiance en eux, qu'on informe, c'est-à-dire par le système d'alerte, qu'on alerte les autorités militaires, politico-administratives et coutumières au moment opportun pour que l'intervention soit efficace. Il ne faut pas alerter en retard et l'ennemi sera déjà parti. C'est encore un défi important, et c'est parmi tant d'autres défis.
On déplore aussi les faibles effectifs des FARDC pour contenir la menace.
Tout à fait, oui, la population le déplore aussi. C'est pourquoi nous avons aussi besoin de partenaires pendant que notre armée est en train de se préparer, de se faire une force importante dans la région de Grand Lac et pourquoi pas en Afrique centrale. Nous avons des partenaires qui viennent pour nous accompagner dans ce que nous avons comme problème.
Monsieur le Président, merci.
Je vous remercie aussi plus.
Le colonel Jean-Baptiste Mwampanzi, administrateur du territoire de Mombasa, revenait sur la situation sécuritaire dans sa juridiction. Il répondait aux questions d'Isaac Raymond Yopé. C'est déjà la fin de votre journal de 18h en ces dimanches. Merci de votre fidélité à Radio Capi, votre radio de référence. À la présentation, Gisèle Cage, à la mise en onde, Jean-Claude Nsiala, à la coordination, Jean Gandou. Retrouvez toute l'actualité en continue sur nos plateformes numériques. On se retrouve très vite pour d'autres rendez-vous d'information. D'ici là, prenez soin de vous. Excellente soirée à toutes et à tous et très bonne fin de week-end.